Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h05, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux d'être avec vous. Bon petit déjeuner, on vous accompagne jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Toujours avec les GG ce matin, Pascal Duprat, Simon Dutin, Stephen Brun. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour de l'OM qui affronte Nice ce soir. Les Marseillais, nouveau dauphin du Paris Saint-Germain et qui vient de se renforcer cet hiver. L'OM doit-il arrêter de se cacher? À 10h30, un homme en colère, Pierre Amiche, va nous parler de Bernard Laporte. Oui, encore, à propos d'une image qui a beaucoup fait parler, le président, l'ex-président démissionnaire qui s'est invité, qui a été convié par le 15 de France pour le stage avant d'affronter l'Italie. Et puis 11h, le bras de fer des GG sur le record imminent de LeBron James qui va devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Les États-Unis se préparent. Est-ce un événement planétaire ou un événement américain, évidemment, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de l'émission. On va débuter cette nouvelle heure avec cette phrase, cette citation de Mary Higgins Clark qui a déclaré « On dort mieux quand on n'essaie pas de cacher quelque chose ».
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
J'ai dit à l'OM, Lucien. J'ai dit à l'OM.
Les retours qui accélèrent. Attention, il peut faire la différence avec la vitesse. Où il va très vite. Il va centrer en retrait. Gattuso.
Par les deux titres, il reste encore énormément de matchs.
Oui, arrêtez de jouer aux Indiens, répondez à une question simple.
Allez, Kolasinac qui va centrer pied gauche avec Gigot, Alexis Sanchez en pivot, la frappe. Oh, oh, goal, 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 goal,
goal. Je lui dis qu'il faut te cacher de toi.
Avec plus de 50 millions déboursés, Marseille a frappé un grand coup lors de ce mercato d'hiver.
On a le droit de rêver.
C'est tiré devant la surface de réparation. Oh, le but marseillais.
Même nous, déjà, on a envie de rapporter un des titres à l'Olympique de Marseille.
Cette caverne pourrait faire une excellente cachette.
Maintenant, voilà, et comme j'ai dit, il faut pas s'enflammer, faut rester humble, et puis après, on verra.
Moi, le gentil dauphin, je n'y suis pour rien, je ne suis pas méchant, tu le sais bien.
Et si l'OM le faisait? Et si l'OM était dans le match jusqu'au bout avec le Paris Saint-Germain pour décrocher un titre de champion de France? Une idée un peu farfelue en début de saison, totalement réaliste en début d'année. Ce matin, Marseille est deuxième de Ligue 1 et peut revenir en cas de victoire face à Nice ce soir à 5 points du Paris Saint-Germain. Surtout, c'est la dynamique des deux équipes qui interpelle. Là où Paris fait peine à voir dans le jeu et n'arrive pas à signer un seul joueur au mercato, l'OM marche sur ses adversaires et réalise des transferts records. Les Marseillais, rendez-vous compte, n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis le 22 octobre dernier. La musique qui fout les jetons et cette question. L'OM doit-il arrêter de se cacher? Oui ou non? Stephen Brun?
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Simon Dutin?
Oui.
Avant de débattre, on retrouve notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Salut Florent.
Salut JC, salut les amis, salut à tous. Ça.
C'est vrai que les Marseillais restent tapis dans l'ombre. En tout cas, ils préfèrent pour l'instant.
Bernard.
Je vais oser reprendre un slogan du rival. C'est vrai que Marseille ne veut pas rêver plus grand. Pour le moment, en fait, leur obsession, franchement, c'est un objectif, mais c'est une obsession. C'est cette qualif en Ligue des Champions. Il y a toutes les saisons. Et Marseille fait, pour le moment, un très bon championnat, mais ne veut pas s'avouer candidat au titre. C'est vrai, c'est factuel. On l'a vérifié cette semaine avec Pablo Longoria, le président, qui a calmé le jeu. Il a pas aimé notamment les deux premières mi-temps contre Monaco et Nantes. Et il aime pas écouter quand on passe trop de pommade à son OM. Il appelle ça des massages. Pablo Longoria.
C'est pas l'intention de penser tous les temps dans un titre. Pour nous, dans ces moments que la dynamique est positive, il y a des messages qui sont très importants. Humilité, c'est un autocritique à tout le monde, non? C'était une semaine de massage. Ah, le mercato se passe bien, massage. Dans les moments qu'il y a minimum de relaxation dans cette équipe, on n'arrivera pas à gagner des matchs parce qu'on est une équipe que notre force, c'est le collectif, c'est la volonté, c'est l'intensité, c'est l'identité du jeu. On doit rester dans l'humilité et on doit penser seulement au prochain match.
humilité. Et d'ailleurs, pour ce petit sujet sur le titre, on n'entendra pas Igor Tudor puisqu'il esquive à chaque fois. Et je dirais même que pour beaucoup, le mot titre est tabou. Les joueurs sont briefés. Faut pas sortir la petite phrase qui fera la une, qui piquera le PSG. D'ailleurs, le petit jeu reste tout de même lors des interviews, d'essayer de faire avouer aux joueurs leurs ambitions. On l'a un petit peu entendu dans la prod avec Jordan Veretout, milieu de terrain. Il a eu le droit hier, écoutez, à cette question qui fait sourire.
Pourquoi vous ne dites pas que vous jouez le titre? Vous avez peur que ça vous porte, la poisse?
Ouais. Alors déjà, on va essayer d'obtenir nos objectifs. L'objectif, je pense que voilà, on va pas se cacher, c'est de jouer la Champions l'année prochaine. Faut pas s'enflammer, faut rester les pieds sur terre. Si le dernier match on est devant Paris, je te dirais qu'on joue le titre, mais voilà, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et puis voilà, faut rester humble et continuer sur ce qu'on est en train de faire.
Et je peux vous assurer pour finir que c'est une prudence qu'on retrouve chez beaucoup de supporters. Il y a un engouement, il y a un plaisir d'aller au stade, ça c'est indéniable. Il y a une envie de regagner des titres, évidemment. Mais il y a aussi un petit traumatisme face à la suprématie du PSG ces dernières saisons, face au fait que l'OM n'a pas gagné un titre depuis plus de 10 ans. Et factuellement, tu l'as rappelé, JC, l'OM est à 8 points du PSG avant son match contre Nice. Et pour résumer, ne s'autorisera à penser au titre que quand le podium sera quasiment assuré.
Merci Florent Germain pour toutes ces précisions. On te retrouve tout au long de la journée sur RMC et notamment à 20h45 au commentaire de ce match entre Marseille et Nice, 22e journée de Ligue 1. L'OM doit-il arrêter de se cacher? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Non, Stephen Morin, pourquoi?
Bah, écoute, quand t'es à 8 points de la première place, quel est l'intérêt aujourd'hui pour l'OM de clamer haut et fort que tu vises le titre de champion de France, à part passer pour un idiot si tout se passe mal dans un mois? Là, ils sont bien, ils font leur petit bonhomme de chemin sans faire trop de vagues. Et tu connais l'OM, ils ont pas besoin de se rajouter une pression supplémentaire, que ce soit le club ou la ville. Et encore une fois, l'Olympique de Marseille aujourd'hui est dépendant des résultats du Paris Saint-Germain qui sont devant eux. En 2021, quand Lille est champion de France, à la 22e journée, et là on y est à la 22e journée, ils sont premiers de Ligue 1, les Lillois. Donc quand t'es premier de Ligue 1, tu peux éventuellement dire oui, à un moment donné, 22e journée, je suis premier, je peux jouer le titre de champion de France. Là, t'as pas été une seule fois premier depuis un bon bout de temps. Tu fais, t'essayes de suivre le rythme du Paris Saint-Germain qui est un petit rythme pour le moment, mais t'es encore loin derrière. Il faut voir aussi l'adaptation parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Unai, on a vu, a fait une belle rentrée. Malinovski, il est là depuis un moment, il a joué quelques matchs. Quid de Vitinha, 32 millions. Oui, c'est bien, c'est un beau prospect, mais comment il va s'intégrer dans cet effectif de l'OM, où quand on connaît le jeu de Tudor, qui est quand même un petit peu particulier, comment il va pouvoir s'adapter, ce garçon qui arrive du Portugal? Il y a tout à perdre à 16 journées de la fin, quand tu commences à faire le fanfaron, et surtout à l'OM. Donc, restez petit. La qualif en Ligue des Champions, elle est importante pour le club. Et puis, sur un malentendu à la Jean-Claude Duss, s'il y a une possibilité à la fin, hop, tu passes la tête.
Okay,
mais tranquille,
très bien.
Tranquille, les Marseillais.
Mais vivons bien, vivons cachés.
Exactement.
Ok, Simon Dutin, pourquoi oui?
Je sais pas. Moi, je j'achète pas les histoires de oui, si on dit qu'on joue le titre, on va se porter la poisse ou machin. Effectivement, là où je rejoins Stephen, c'est que, à Marseille, t'as pas besoin, effectivement, de vendre du rêve à des supporters qui sont déjà ultra bouillants et tout. Effectivement, pour prendre le risque de les décevoir encore plus, mais bon, là encore, Flo l'a rappelé, il y a de la prudence chez les supporters qui sont pas stupides, qui voient ce qu'il y a évidemment devant eux. Là où je suis pas d'accord avec Stephen, c'est que contrairement à l'exemple qu'il a donné avec les Lillois machin à la 22e journée, là il y a quand même des courbes qui sont en train de se croiser, parce que Paris a fait un début de saison extraordinaire et paraissait intouchable, mettait des valises à tous ses adversaires, et l'OM effectivement manquait un petit peu de constance. Là il y a quand même une identité qui se dessine, un vrai patron Tudor qui a quand même enfiler le costume, et je veux dire c'est incroyable ce qu'il a fait Tudor quand même cette saison, il faut le remarquer. Il y a un effectif qui s'est un petit peu resserré mais qui a gagné en qualité, Stephen rappelait les recrues, et moi justement je pense que quand tu bats ton record de transfert historique pour un joueur comme ça,
ça veut dire quelque chose.
Bah ouais, ça veut dire que tu annonces tes ambitions. Tu mets pas 32 millions d'euros sur un avant-centre au mercato d'hiver pourquoi te contenter de la deuxième place? Évidemment qu'ils y pensent tous. Alors effectivement, arrêter de se cacher, je sais pas bien ce que ça veut dire, parce que bon, 8 points, ils ont un match en moins, donc s'ils gagnent ce soir, ça fait 5. Je pense que si tu leur avais dit en début de saison, à la 22e journée, vous serez à 5 points derrière Paris, ils auraient signé direct, et ils seraient dit, ah bah si on est deuxième à la 22e journée avec 5 points de retard, il y a moyen qu'on aille barber le titre, tu vois.
Ok.
Je sais pas, et non, je trouve qu'ils ont un effectif d'une qualité pas assez souligné, selon moi.
On parlait de la com hein, pour ce match Italie-France en rugby. On est aussi un petit peu dans la com. L'OM doit-il arrêter de se cacher? C'est non pour toi, Pascal.
J'ai répondu non parce qu'il me semble qu'ils ne se cachent pas, en fait. Ils sont simplement réalistes. Le Paris Saint-Germain est au-dessus du lot en championnat de France de Ligue 1 jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, il dispose de 8 points d'avance sur l'OM. L'OM doit battre Nice pour revenir à 5 points. Non, mais moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est qu'enfin, l'OM a une équipe cohérente, à une équipe qui fait du bien regarder. Et quand je me souviens des commentaires en début de saison sur la présupposée faiblesse de Tudor, je m'aperçois qu'il mène, ma foi, très bien sa barque. Et puis avec le recrutement, avec aussi Payet qui devrait être titulaire aujourd'hui, donc dans quelques semaines, est-ce qu'on va pas dire Tudor, quel génie d'avoir laissé Payet sur le banc en début de saison pour faire en sorte qu'en en fin de saison, il amène toute sa classe, toute sa science avec les recrues comme Unani et Vitinha qui est un très 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 bon joueur et une très très bonne pioche, il va le démontrer. Peut-être que il faudra donc attendre que le Paris Saint-Germain joue sa double confrontation contre le Bayern pour savoir si ça explose au PSG ou non. Et à ce moment-là, on pourra peut-être dire, grâce à la constance des résultats de Marseille, qu'il y a quelque chose à aller chercher. En tout cas, bravo, ça fait du bien au foot français que Marseille soit enfin de retour.
Oui, finalement, on est plutôt d'accord avec Pascal. On rappelle que l'OM ne joue plus de Coupe d'Europe. Donc ils vont jouer un match par semaine quasiment d'ici la fin de saison. Et effectivement, bon, se cacher ou pas se cacher, ce qu'on peut reconnaître, c'est que là, on est à un tournant parce que Nice, est-ce que Nice est si faible que ça? Bon, depuis que Guigard est sur le banc, c'est quand même beaucoup mieux. Il y aura un vrai test ce soir. Et puis ils vont affronter deux fois Paris en une dizaine de jours, en championnat et en Coupe de France. Effectivement, derrière, si tu bats Paris au moins sur une des deux fois, même si c'est en Coupe de France et pas en championnat, tu seras quand même obligé d'assumer un petit peu tes ambitions.
Bah non, parce que si tu bats PSG en Coupe de France, ça t'apporte rien en championnat, Simon.
J'avais pas percuté.
Si
tu gagnes en Coupe de France, tu gagnes pas de points en championnat.
Malgré tout, si Marseille arrive à sortir le PSG,
j'avais pas capté.
C'est quand même un ascendant psychologique pour le match. C'est quand même si Marseille arrivait à battre le Paris Saint-Germain en Coupe de France, ce serait un ascendant psychologique pour le match retour de Ligue 1.
Pascal.
Et puis aussi à Marseille, ils ont besoin de titres, et donc de gagner la Coupe de France, c'est pas neutre.
S'ils battent le PSG, ils gagnent pas la Coupe de France aussi, tu sais ça aussi ou pas, Pascal?
Non, mais ils sont pas loin malgré tout. Mais bien sûr qu'ils encore une fois, tu manques de gentillesse aujourd'hui. T'as pas d'empathie. Putain, mais si tu veux percer dans le milieu, faut être un peu plus empathique.
Non, parce que quand t'es empathique, tu te fais fourrer, Pascal.
Ok. On est en train totalement de dévier de notre débat, donc je vais recentrer les choses. L'OM doit-il arrêter de se cacher? Vous avez entendu la question du journaliste en conférence de presse. La question, c'était de savoir si on en parle pour eux. Et c'est vrai que les médias en parlent largement pour eux. Ils ont peut-être pas besoin de eux l'exprimer haut et fort. Mais est-ce que vous, au plus profond de vous, vous y croyez? Est-ce que vous voyez l'OM rattraper le Paris Saint-Germain, Stephen?
Non.
T'as le droit de développer, hein, je te rassure.
Non, j'y crois pas. Moi, je pense que les Marseillais sont très bien à cette deuxième place. Et là, je suis pas en train de prendre parti parce que je supporte plus le Paris Saint-Germain que l'OM. Je pense que fin février, on aura la réponse. Si le Paris Saint-Germain s'impose au Vélodrome, je pense que le championnat est terminé. La seule chance pour l'OM. Mais qu'est-ce qui se passe, oui?
On aura déjà la réponse ce soir. Si Marseille ne bat pas Nice, ça m'apparaît compliqué.
Non, mais si tu perds contre Nice et tu bats le PSG en championnat, pas en Coupe de France, que si tu bats.
Donc t'es pas obligé d'attendre février, Stephen. Aujourd'hui ils ont 8 points de retard, si aujourd'hui ils perdent contre Nice, ça va être compliqué.
Oui, mais si tu fais nul,
c'est pas en février
encore. Ah, mais ici, on peut rappeler que Montpellier, on croyait pas qu'ils iraient au bout. Lille, on se disait qu'ils iraient pas au bout. À chaque fois, t'as envie de te dire, bon, ben, Paris, ils vont finir par,
ouais, mais vous pensez vraiment que la mauvaise période du Paris Saint-Germain, elle va durer 6 mois?
Ben, ça dépend. Là, par contre, je te rejoins. Ça dépend du Bayern.
Ils vont se remettre à jouer au football.
Ça dépend du match face au Bayern.
Ça dépend de la double confrontation du Bayern.
Dans le vestiaire, effectivement. Voilà. S'ils sont éliminés par le Bayern, bon.
Alors, la meilleure chance pour que l'OM fasse le match jusqu'au bout avec le Paris Saint-Germain.
C'est quand même très sévère pour l'OM de dire que pour que l'OM soit champion de France, il faut que le PSG perde en Champions League. C'est même pas, je veux dire, ça se joue pas sur le volet sportif.
C'est toi qui viens de dire, vous pensez que la mauvaise passe, elle peut s'éterniser à Paris.
Non, mais
t'as toujours tendance, effectivement, à croire qu'avec leur effectif, machin, les mecs, ils vont redresser la barre et qu'effectivement, ils vont se fâcher et qu'ils vont arrêter de, je sais pas, de laisser des points en route.
Et il y a aussi une donnée qu'on oublie d'afficher, c'est que nous sommes dans une période post-Coupe du Monde et il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui ont disputé l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde. C'est pas le cas à Marseille.
Ah ouais?
Les joueurs marseillais, Guendouzi et Vertu, ils étaient sur le banc, ils ont rien joué. Ok, mais à Paris, ils ont joué tous les matchs. Donc ça va compter aussi. Si le Paris Saint-Germain est en difficulté contre le Bayern et ne se qualifie pas, et encore une fois, ça fait beaucoup de conditions. Et si Marseille vient à gagner aujourd'hui et continue à avoir des résultats constants, parce que depuis novembre, ils ont des résultats constants, ils ne perdent pas. Alors, ça peut-être donner une fin de championnat fort du match retour à Marseille. Ça peut donner une fin de championnat exaltante.
Et au bout d'un moment, quand t'es fort, que tout le monde dit que t'es fort, que tout le monde reconnaît que t'es fort, que tu commences à inspirer la peur à tes adversaires, je veux dire, ça devient un peu ridicule de dire « Oh non, non, nous, le titre, vous savez, nous, mais peut-être que le petit poussé, ça va, t'es l'Olympique de Marseille. » Au bout d'un moment, faut réaffirmer la fierté de tes couleurs, la puissance de tes ambitions. Au bout d'un moment, ouais, t'es l'OM, t'es à 5 points de Paris à la 22e, oui, tu joues le titre, point barre.
Après, le discours en interne est peut-être différent, ce que tu dois dire à ces joueurs, ce que les mecs se disent entre eux, et c'est peut-être ce qui nous tient à nous. C'est peut-être un discours de façade. Quand tu arrives au mois d'août et qu'il est sur la ligne de départ avec le Paris Saint-Germain, quand on voit l'effectif de l'OM, on était quand même à des années-lumière de penser que l'Olympique de Marseille serait dans cette position-là.
Exactement.
Tu me rejoins.
Je te rejoins pour dire. Mais si c'est pour dire que l'OM fait une saison fantastique et qu'il joue bien au football, oui, là je peux te rejoindre, Pascal. Maintenant, j'ai quand même des doutes. Après, quand tu es dépendant, en fait, le problème c'est que l'OM, pour moi, ils ne sont pas dépendants de leur propre résultat pour être champion de France. Quand t'es dépendant d'une autre équipe et que t'as pas les trucs dans tes mains, et ben moi ça me gêne.
Lille en 2021, ça dépend des deux en fait. Il fallait qu'ils continuent à gagner des matchs et à performer pour être champion parce qu'ils étaient devant.
Ils l'ont fait, bravo à eux. L'OM, ça veut dire
j'ai l'impression d'une force collective pour l'OM.
Ah oui,
j'ai pas vu depuis de nombreuses années. Donc il n'y a pas besoin de parler, en fait.
Là, c'est
à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas besoin de parler. Ils savent que chaque match après match, voilà la bonne méthode pour avoir l'espoir de titiller Paris, c'est d'avoir des résultats constants. Et puis après, c'est pas de leur fête. Il faudra que Paris soit en difficulté.
Pascal, une dernière question. Faisons un peu de fiction. Tu es entraîneur de l'OM. On est au soir de la 22e
journée.
J'aurais
bien aimé.
Tu es à 5 points du Paris Saint-Germain. Dans ta tête, je te dis pas ce que tu dis aux journalistes. Dans ta tête, est-ce que tu crois au titre ou pour toi, t'es focus sur la deuxième place?
Non, mais ils sont obligés de croire au titre. Bien sûr, mais leur objectif principal, c'est d'être, parce que c'est une dépendance réelle économique. L'objectif principal de l'OM, c'est d'être qualifié pour la prochaine Champions League. Donc, faut qu'ils finissent deuxième. Donc, chaque chose en son temps. Continuer à faire ce qu'ils font, parce qu'ils ravissent leurs supporters. C'est magique ce qui se passe à l'OM en ce moment, et c'est magique pour le championnat de France.
Et on vous attend évidemment, supporters marseillais au 32-16. Venez nous dire si vous y croyez à ce titre de champion de France. Il est 10h23 et j'ai une petite question pour Pascal d'ailleurs. Mon cher Pascal, à chaque fois, alors je le précise pour les auditeurs, tu n'es pas tout le temps en studio avec nous. Et à chaque fois à 10h15, on entend les cloches derrière toi. C'est la messe qui commence. Vous êtes un petit peu en retard. En fait, on veut dire 10h, mais les 10h15, comment
ça se passe? C'est David Douillet qui passe derrière Pascal Dupin.
dis-nous ces cloches. Là, c'est pourquoi,
j'ai beau mettre mes mains autour du micro,
vous l'entendez malgré tout.
Non, parce que j'habite dans un tout petit village et j'ai une modeste demeure qui est près de l'église, tout simplement. Et à 10h15, c'est pas moi qui donne la messe, hein. C'est pas moi qui la sers. Donc à 10h15, il y a les cloches qui sonnent.
Très bien, parfait. Voilà. C'est pour appeler les fidèles. Très bien, merci beaucoup, mon cher Pascal. Oui, Stéphane. Rien, pas une vanne sur fidèle.
Non. Vas-y, balance.
J'en appelle les fidèles. pour ça que je disais, t'es jamais appelé à l'église.
Très bien. Je pensais pas que t'allais aller sur ce terrain-là, mais on embrasse ma femme, évidemment. 10h25, on se retrouve dans quelques
laquelle
instants. elle se reconnaîtra ou pas. 10h25, un homme en colère dans quelques instants. Autour de Bernard Laporte, à tout de suite sur RMC. On vous attend évidemment au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h29, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Ensemble jusqu'à midi avec Pascal Duprat, Stephen Brun, Simon Dutin. Sachez que dans une dizaine de minutes, j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de zapping. J'ai une demande. Ah oui, j'ai une demande sur Nando De Colo de Stephen Brun. Voilà, qui hier dans le groupe WhatsApp nous a tous allumés en disant comment vous ne pouvez pas parler
pas tous,
de.
Pas tous, toi. Allumé toi, ouais.
Parce que t'as osé me mentir.
Je me suis pas senti visé. Hein.
T'as osé me mentir. Je t'ai demandé, excusez-moi, vous avez parlé de Nando De Colo dans l'émission d'hier. Parce que le record de Nando De Colo, c'était vendredi soir. Je me suis dit, bah, samedi matin, l'émission Omnisport, on va sûrement parler de Nando De Colo. Tu m'as répondu, oui, bien sûr. Sauf que j'avais écouté l'émission. Toi, Christophe Drouet, tu me mens.
Je t'ai menti. Je suis désolé. Je vais. On va pas parler finalement de Nando De Colo. Si on en parle dans le zapping des GG. Et puis j'ai aussi du Manuel Neuer. Je sais pas si vous avez vu cette histoire, Manuel Neuer en froid avec ses dirigeants à quelques jours d'affronter le Bayern. Peut-être que le Bayern Munich n'avait pas forcément besoin de ça. Mais je vous raconterai cette histoire si ça vous intéresse. Non, si tout le monde s'en fout évidemment, je zapperai l'information. Mais comme tous les dimanches à 10h30, on fait entrer un homme en colère.
RMC, l'homme en colère. Mais pourquoi est-il aussi méchant?
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Salut Pierrot.
Alors pourquoi en colère?
Bernard L a 58 ans. C'est un homme de pouvoir, aimé, adulé. Dans le petit monde du rugby, c'est un parrain respecté, parfois craint, drôle, généreux, brillant même. Mais derrière le masque se cache ce qu'on appelle un multirécidiviste qui encourt aujourd'hui jusqu'à 10 ans de prison. C'est fou comme le ton, ça change tout. Hein. Quand je crépille la porte depuis des mois, c'est rigolo, on se tape sur les cuisses. Mais quand on commence à parler cabane, ça le fait peut-être qu'à moi, mais c'est moins marrant d'un coup quand même. On n'a plus trop envie de se marrer. Bon, après quelques années, vous savez comment je suis. Hein. Mon esprit de contradiction est nettement plus costaud que mon esprit critique. En gros, si quelqu'un fait un truc de mal, je me moque. Et si tout le monde se moque, eh ben je le défends. Alors je suis tiraillé, exercice de style complexe qui est de défendre l'indéfendable. La porte en 2 ans, c'est la condamnation en justice, les gaufres italiennes pendant le Covid, le concept unique au monde de bulle semi-ouverte, semi-fermée à Marcoussis, c'est les copains placés un peu partout, on embrasse Denis, c'est la pression sur la commission de discipline de la LNR, c'est les soupçons de blanchiment de fraude fiscale, et c'est son dernier exploit en date, tenter de retourner Serge Blanco. Moi, pour moi, c'est un peu le coup de grâce à un Blanco, le magicien du rugby qui a réussi le tour de force de couler le Biarritz Olympique, de s'aborder le projet de grand stade dont il avait la charge à la FFR, de plomber le 15 de France au Mondial 2015 avec Philippe Saint-André et sa phrase « On va gagner parce qu'on est français ». Derrière, on en prend 60 contre les Blacks. Et de perdre aux élections face à Laporte en 2019, hein, il était dans l'opposition. Ah, Serge, le petit prince. Mais ça y est, ça me fait pleurer de taper sur Laporte, l'ex-président de la FFR. Le jeu de qui aura la peau de Bernard, bon, c'est devenu un jeu auquel y a trop de monde qui joue, c'est ringard, ça me fait pleurer. Et cette semaine, on lui reproche quoi de plus? Eh bien d'être allé voir le 15 de France. Donc c'est n'importe quoi. Ce fumier qui ose encore aimer le rugby, il ose se rendre dans un endroit où l'équipe de France s'entraîne. Il a le toupet de passer du temps avec Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, le salaud, hein, qu'on le pende. Alors pourquoi il était là? Eh bien explication de Raphaël Ibanez en personne.
Les raisons sont très simples. La première, c'est que l'organisation de la Coupe du Monde en France... C'est lui. La motivation profonde que l'on peut ressentir chez les joueurs à l'heure actuelle, elle vient de là, pour disputer cette compétition d'envergure internationale. Et le dispositif actuel, les conditions d'entraînement et le staff, c'est lui aussi.
Bon, Laporte à Cap-Breton, franchement, c'est pas bien, mais c'est pas grave, je veux dire. Il vient voir ses potes, ok, il est plus président, ok, il fait probablement des trucs totalement cons, ok, il est méchant, caca, il est méchant, t'es pas gentil. Mais à un moment, là, il fait rien de mal. C'est encore pas brillant au niveau de l'image. Mais c'est son dernier tournoi avant peut-être de partir en cabane. Il est plus président, tout le monde lui tourne le dos. Faut quoi, maintenant? Qu'il se terre dans un trou jusqu'à sa mort, qu'il se foute une balle dans la tête. Bernard Laporte gravite autour du monde du rugby en général et des Bleus en particulier depuis plus de 40 ans. Il va pas se lancer frénétiquement dans la pêche à la mouche pour vous faire plaisir. Alors oui, on est dans la société de la communication et du symbole, et ça c'est super. Mais on est aussi dans celle de la polémique perpétuelle et de l'indignation. On est choqué partout, on demande des comptes à tout le monde. On regarde chez le voisin pour lui dire comment il doit faire, comment il doit penser, comment il doit agir. Moi je m'en fiche que Laporte il soit à Cap-Breton, ni même qu'il soit au stade. C'est pas un hooligan, il a pas une injonction du tribunal l'empêchant de s'approcher de Fabien Galthié. Et la morale qui finalement est le seul bouclier qu'on agite devant lui, eh ben ça va, ça vient. Il faut pas avoir grand chose à se mettre sur le dos pour se draper dans les valeurs et faire croire qu'on est
profondément choqué, profondément déçu, profondément outré, la tête sur le côté, ou même quoi que ce soit. Voilà, j'y sais, j'espère que t'es fier. Je défends Bernard Laporte alors que j'ai plus aucune chance d'avoir une place en loge. T'as baisé ma vie, t'as eu la peau de Le Graët, t'as eu la peau de Cessieux. Ça te suffisait pas, maintenant tu viens de gâcher ma carrière. Bon, maintenant je veux plus parler des affaires parce que j'en suis, c'est pas que je suis pas courageux, mais c'est parce que j'ai plus rien à écrire et je préfère laisser ça à ceux qui n'ont que ça à dire. J'espère que dans 8 mois, le 15 de France sera sur le toit du monde. Avec Bernard Laporte en présidentiel ou en QHS, ça changera rien à mon bonheur ni à celui des amoureux du rugby. Et j'en suis sûr, ça emportera tout sur son passage, y compris le souvenir d'un président parfois pas à la hauteur et parfois, il faut le dire, juste très bon.
Merci beaucoup Pierre Amiche pour cet homme en colère avec cette présence qui a beaucoup fait parler cette semaine de Bernard Laporte auprès du 15 de France alors qu'il venait tout juste de démissionner, invité par les Bleus lors de ce stage à Cap-Breton avant d'affronter l'Italie. Est-ce que vous êtes en colère les GG? Colère ou pas colère? Simon Dutin.
Rappelle-moi, il est en colère Pierrot et enfin je suis pas d'accord avec Pierrot en tout cas.
Ok, pas d'accord avec Pierrot et tu es en colère contre Bernard Laporte, en tout cas le fait qu'il soit invité par le 15 de France. En colère ou pas en colère, Stéphane Brun?
Je suis pas en colère contre Bernard Laporte.
Ok.
Enfin sur ce truc-là. Hein.
Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Pascal Duprat.
Je ne suis pas en colère.
Pas en colère. Celui qui est en colère, il n'est pas d'accord en plus avec Pierre Amiche. Simon Dutin, pourquoi?
Parce que il y a la force du symbole, c'est quand même, on parle de l'équipe de France de rugby. Bernard Laporte, il a été condamné en décembre à 2 ans de prison avec sursis, pas pour des petites affaires, hein, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, même s'il est présumé innocent puisqu'il a interjeté appel. Donc effectivement, il y aura à nouveau un procès. Je pense que moi je le ressens comme parce qu'on va pas rappeler les passes d'armes avec la ministre qui est la ministre des Sports, notre ministre des Sports, qui a fini par obtenir sa démission, de sa mise en retrait de la Fédération française de rugby. Il y a, on rappelle, tous les membres du comité directeur de la fédération qui ont refusé de démissionner, qui s'accrochent encore à leur poste. Je sais pas, je le vois comme une façon de, je sais pas, un peu de défier justement le ministère des Sports. Et je comprends pas à quel titre, puisqu'il n'est plus président de la Fédération française de rugby, à quel titre il vient ses amis, d'accord, mais bon, il y a beaucoup d'amis de, je sais pas, de joueurs et du staff qui viennent comme ça à Marcoussis. Non, c'est parce que c'est Bernard Laporte. Encore une fois, immense respect pour ce qu'il a accompli à la tête du 15 de France, à la tête des différents clubs qu'il a entraîné,
mais notamment pas le rugby club tout. Surtout lui qui vient de démissionner.
Je pense encore une fois dans un contexte de turbulence, c'est quand même la Fédération française de rugby est en crise, alors qu'on s'apprête à recevoir la Coupe du Monde en 2023. Je pense que oui, c'est il y a un petit peu de provocation dans sa présence. Et provocation assumée aussi de la part du staff du 15 de France qui, effectivement, on le sait, soutient Bernard Laporte et a été effectivement nommé par Bernard Laporte.
Ok, Stephen ne va pas en colère.
Non, pas en colère. Alors que Bernard Laporte ait pu faire des bêtises et des conneries, il a été sanctionné, il est en passe d'être sanctionné pour ça. Il n'est plus président, il a démissionné, c'est acté. Est-ce qu'il faut que ça implique aussi qu'il n'ait plus le droit de voir Galtier, Ibanez, des amis qu'il a mis en place à la tête de cette équipe de France, où les résultats sportifs sont exceptionnels, parce que ça aussi il faut aussi le dire. Bernard Laporte a fait des choses, de très mauvaises choses, mais il a aussi fait des bonnes choses pour le rugby. Et si le rugby aujourd'hui se porte bien sportivement, c'est aussi parce qu'il a mis un staff en place, il a mis des conditions de travail en place, et que cette Coupe du Monde, le rugby, peut-être le monde du rugby est terminé à vie pour Bernard Laporte, et que le fait d'aller à Cap-Breton, de remettre un peu le pied, de voir Galtier, de voir Ibanez, de voir les joueurs en place, et peut-être que c'est la dernière fois qu'il peut côtoyer de près ce staff de l'équipe de France. J'ai pas envie de clouer au pilori à vie un mec. Il a été sanctionné à juste titre. Voilà, laissons-lui le droit d'aller voir des amis, de partager, de boire un petit canon et de dire au revoir aussi.
La force de l'image.
Oui, la force de l'image. Oui, la force de l'image. Mais vous voulez quoi en fait? Vous voulez Bernard Laporte, il sort plus de chez lui.
C'est pas ça. Attends. Je vais te retourner la question. Imaginons, donc là, les Bleus de l'équipe de France de foot, en mars, vont se retrouver pour les qualifications pour l'Euro. Et Noël Le Graët participe au déjeuner ou au dîner avec toute l'équipe de France et Didier Deschamps.
Avec Florence Ardouin aussi.
Il n'y a rien qui te choque.
Bon, enfin, c'est pas les mêmes histoires, hein, Noël Le Graët et Bernard Laporte. On n'est pas sur les.
Peu importe l'histoire. Franchement, les deux ont été mis en retrait.
Sauf que la grande différence, j'y sais, c'est que je crois qu'il y a beaucoup plus de liens rapprochés entre les joueurs du 15 de France et Bernard Laporte qu'entre les joueurs de l'équipe de France de football et Noël Le Graët. Il y a quand même beaucoup plus de distension entre les joueurs de l'équipe de foot et Noël Le Graët.
T'es quand même un peu mis dans les cordes. Pascal Duprat.
Ah, tu m'as mis dans les cordes, non?
Ouais, ça m'amène. Ça m'amène plusieurs réflexions.
Mettre dans les cartes, mais pour de vrai.
La première réflexion, c'est que, encore une fois, Simon, t'as bien fait de le rappeler, mais aujourd'hui, il a été condamné en première instance, il a fait appel, donc il a le droit de bénéficier de l'innocence. Il est présumé innocent. Il a, même s'il a fait beaucoup, certainement, hein, mais c'est pas encore avéré, l'appel le confirmera ou l'infirmera. Il a fait peut-être, sûrement des bêtises, mais pas au point de venir dans un panier à salade avec des menottes au poignet, rendre visite à, ou répondre plus exactement à l'invitation du staff technique de l'équipe de France. Donc bon, moi, ce qui me gêne, c'est comment dire, l'acharnement. C'est tous les jours, on s'acharne sur quelqu'un qui a fait vibrer, il faut pas l'oublier, qui a fait vibrer le sport, le rugby, et qui a fait de belles choses aussi en temps et en qualité de président de la Fédération française de rugby. Par contre, la deuxième chose, encore plus réjouissante pour moi, c'est que ça m'appelle la réflexion suivante. Il y a une vertu qui n'est pas oubliée, c'est l'amitié et la reconnaissance du ventre. Et Galtier, Ibanez, qui doivent leur place à la tête de l'équipe de France à Bernard Laporte, eh bien, ont cette fidélité en amitié qui est juste remarquable par les temps qui courent. Donc voilà, il a répondu à cette invitation, il est allé voir ses amis, il n'est pas allé de lui-même, c'est peut-être, là, la troisième réflexion, c'est peut-être aux décideurs, aux vrais patrons du rugby, je ne sais pas qui ils sont, je crois que ça s'appelle Martinez aujourd'hui, ben oui, ça montre qu'il n'y en a pas, puisque c'est le staff qui décide des invitations.
Pascal, et c'est pas une question d'acharnement, c'est que vous me parlez d'amitié, mais très bien, mais moi qu'ils se voient tous les soirs et qu'ils prennent des déj ou des dîners ensemble, ça pose aucun problème à personne. Mais le poids de l'image, quand on a une fédération qui est autant en crise, le poids de l'image, c'est de dire attendez, nous le 15 de France, on va très bien, et si on a envie d'inviter Bernard Laporte, on l'invite.
C'est peut-être pour dénoncer cet acharnement. Et clairement, on sent bien que c'est comment dire, une provocation, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. On sent bien que ils veulent pas se désolidariser de Bernard Laporte. Par contre, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a pas un joueur de l'équipe de France qui s'en plaint. Au contraire, parce qu'il est populaire au sein du 15 de France, Bernard Laporte, parce que c'est quelqu'un de bon homme, c'est quelqu'un de bon vivant, et les joueurs savent ce qu'il a apporté au rugby français malgré tout.
Okay, moi, je vois pas un quelconque calcul, comme Simon le laisse entendre, que c'est fait justement pour.
Pas du calcul,
tiens, regarde, je fais ce que je veux. J'ai l'impression qu'en fait, les mecs, ils font ça sans penser aux conséquences pour la bêtise, en fait.
Ils sont solidaires, voilà, malgré tout.
Gatti, Ibanez m'invite. Moi, le rugby, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mes amis. Je vais passer 2-3 jours à Cameroun, voir ce qui se passe, et puis basta. Ils sont pas là à penser ce que les gens vont.
Simon a malgré tout raison. Il y a quand même aussi un peu de calcul, parce que la ministre, elle fouine beaucoup, hein.
C'est la guerre entre la ministre des Sports et le.
Il est à espérer qu'elle ne soit jamais contrainte à démissionner. Parce que elle s'acharne aussi beaucoup, quoi.
Elle s'acharne. On va pas lui reprocher de s'acharner. C'est son rôle sur des dossiers sensibles. Et enfin, quelqu'un fait bouger un petit peu notre sport. Voilà, qui n'est pas tout le temps dans les mêmes conditions.
C'est la justice qui va faire bouger le sport.
Et tant mieux, Pascal, non, quand même.
Mais pour l'instant, Bernard Laporte, il est présumé innocent. Moi, je me tue à le répéter, tout simplement.
Oui, très bien.
Parce que je suis légaliste.
Mais je suis d'accord avec toi.
Le constat, s'il doit payer, il paiera. Il sera fort mari de payer. Mais...
Sauf que s'il y a personne qui s'occupe de ça, on ferme les yeux sur tout.
Il n'y a pas personne qui s'occupe de ça. C'est ce que je viens de te dire, c'est la justice.
Avec l'image que tu renvoies, encore une fois, ça me dépasse. Mais parce que c'est la force, l'aura, le charisme de Bernard Laporte qui, effectivement, compte énormément d'amis, de soutien et un réseau peut-être inégalé, inégalable dans le le paysage du rugby français. Donc effectivement, il a beaucoup de défenseurs et de gens qui, voilà, je pense, disent voilà, il y a les affaires et puis à côté il y a le l'acteur quoi de l'histoire du rugby français. Voilà, pour service rendu, on peut pas oublier ce qu'il a fait pour le rugby. Moi, je lâcherai pas mon bot. C'est très rugby comme valeur. On reste amis pour la vie. Peut-être que Stephen trouve que je délire, mais effectivement, moi, après tout ce qui vient de se passer, les passes d'armes avec le ministère des Sports, oui, j'y vois une provocation. Okay. En mode, moi, je suis chez moi à Marcoussis, et bien qu'on m'ait un peu évincé, je vais rester influent au sein du rugby français.
10h44, on se retrouve dans quelques instants à un dossier qui fait beaucoup réagir. N'hésitez pas, venez au 32-16, venez nous dire ce que vous en pensez. Les GG n'étaient pas d'accord. Dans quelques instants, le zapping. Avec beaucoup de choses à vous dire, notamment Tom Brady qui prend sa retraite, une nouvelle retraite. Vous y croyez, vous y croyez pas. J'ai aussi les suites du dossier Banque Populaire avec ce scandale sur le Vendée Globe. On en parlait déjà hier. Bref, beaucoup d'infos croustillantes à vous donner. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
47, on est de retour dans les grandes gueules du sport pour évidemment parler de l'actualité sportive. On est très heureux d'être avec vous ensemble jusqu'à midi à partir de 11h. Un bras de fer que vous allez adorer, j'imagine. En tout cas, nos GG vont débattre sur le record imminent de LeBron James qui va devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Est-ce un événement planétaire ou un événement américain ? J'interroge Stephen Brun. Il va aller sur quelle piste ? Un événement planétaire ou un événement américain, mon cher Stephen ?
À ton avis, mon grand.
Bah, j'imagine, mais...
Tu veux que je te mette dans les cordes ? Planétaire.
Planétaire, oui. Ok. En tout cas, il y a certaines GG qui ne sont pas d'accord avec toi. Ce sera à partir de 11h.
Mais c'est sûr que l'info n'est pas arrivée dans le village où sonne les cloches à 10h15. C'est Pascal Duprat, hein, l'info de LeBron James.
Ok.
Continue à être outrecuidant, mon cher ami. Continue.
Attends, outrecuidant, j'ouvre Larousse. Outrecuidant, signification.
Ouais, c'est vrai, on l'emploie pas beaucoup.
Ouais, je te rappelle que j'ai le Minitel, je suis au courant de tout dans mon petit village.
Ça va être très bon. Vous avez compris que Pascal pense plutôt que c'est un événement américain. Ce sera à partir de 11h. Mais tout de suite, on s'en fout.
Non, il pense que c'est un non-événement.
Le zapping des GG. Le retour.
Et venez participer à ce bras de fer avec nous au 32-16. Alors, des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non, si tout le monde s'en fout. On zappe l'information. La première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la qualification des Bleus pour les phases de groupe de la Coupe Davis. On s'en fout pas. Stephen Brun.
On s'en fout.
Pascal Duprat.
C'était contre les Hongrois ?
Oui, c'est ça.
C'est ça ? Ouais. On s'en fout.
Ok, Hongrois rêvé. Simon Dutin.
On s'en fout.
Bon, bah, on passe alors.
On va rêver, c'est la première fois qu'on l'a fait celle-là.
Je crois, ouais. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le record hallucinant de Nando De Colo. Ah ! On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
Moi, je m'en fous pas, mais je vais me taire, je veux l'écouter.
On entend et on veut écouter Stephen Brun qui nous a réclamé tout le week-end. On veut De Colo, on veut. Stephen, j'imagine que ça t'intéresse ?
Oui, ça m'intéresse.
On y va. Nando De Colo est donc devenu vendredi, lors du match entre l'ASVEL et Bologne, le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe. Le Français avait besoin d'inscrire 3 points pour déplacer au classement historique des marqueurs des Coupes d'Europe l'illustre arrière-grec Nikos Galis, star des années 80, dont le compteur indiquait 4904 points depuis 1995. Nando De Colo a inscrit 15 points. Il occupe désormais la tête de ce classement avec 4917 points. Stephen.
Ouais, je trouve ça très curieux que cette info, et je parle pas que nous, n'ait pas fait plus de bruit parce que c'est quelque chose d'historique. Nando De Colo est pour moi, derrière Tony Parker, le plus grand joueur de l'histoire du basket français parce qu'il a accompli sur le territoire européen, il a gagné 2 fois l'Euroleague. Avoir cette régularité au plus haut niveau depuis 15 ans, c'est exceptionnel. Il a joué dans les plus grands clubs européens, il dépasse des icônes comme Spanoulis, comme Bodiroga, comme Juan Carlos Navarro qui sont eux dans leur pays des vraies légendes et des vraies stars, alors que nous, Nando De Colo, eh ben, est un petit peu sous-médiatisé à mon sens, et peut-être qu'on se rendra compte de ce qu'il a pu faire, comme souvent, une fois qu'il aura arrêté sa carrière. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, Nando De Colo, il joue dans un club français. À l'ASVEL, il a battu ce record avec un maillot d'un club français sur les épaules. Donc, il faut savoir apprécier ça. Et à l'heure où on est dit tyrambique et on en fait des caisses sur ce que va faire LeBron James en dépassant Kareem Abdul-Jabbar, je pense qu'il était important de souligner le record de Nando De Colo qui, d'ici, 35-40 matchs, deviendra aussi, je pense, le meilleur marqueur all-time de l'Euroleague, qui est la deuxième plus grande compétition au monde derrière la NBA. Voilà.
Ok, il va le faire, tu penses ?
Oui, il va le faire. Il lui manque 345 points s'il est sur sa moyenne de 12 points de moyenne. Donc d'ici 30 matchs ou 35 matchs, ça sera fait.
Ok, parfait. On va l'écouter d'ailleurs, Nando De Colo. L'ASVEL a perdu ce soir-là, mais Nando De Colo a réalisé le record.
Je pense que par rapport au record, c'est plus les gens autour de moi qui ont fait que ce soir était un peu spécial. Moi, j'étais d'abord venu là pour jouer un match d'Euroleague, essayer de le gagner. Donc là, la défaite est amère. Mais après, voilà, faut pas non plus oublier ce que ça représente. Et en tout cas, voilà, il y a une certaine fierté derrière.
Et voilà, on en a parlé dans cette émission, en tout cas, de Nando De Colo. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Manuel Neuer en froid, très en froid, avec ses dirigeants au Bayern Munich. On s'en fout, on s'en fout pas. Stephen Brun.
Je m'en fous.
Pascal Duprat.
Non, je m'en fous pas.
Ok. Simon Dutin.
Je m'en fous.
Ok. En convalescence après s'être fracturé la jambe au ski, vous le savez, Manuel Neuer s'est mis son président Oliver Kahn à dos en s'en prenant ouvertement à sa direction à travers deux interviews accordées il y a quelques jours. Le gardien de 36 ans explique avoir très mal digéré l'éviction de Toni Tapalovic, l'entraîneur historique des gardiens du Bayern Munich il y a 10 jours. Voici ce qu'il a déclaré. C'était pour moi un coup, alors que j'étais déjà à terre, c'est comme si on m'avait arraché le cœur. Oliver Kahn a donc réagi en expliquant ce que Manuel Neuer a dit en raison du départ de Toni ne rend pas justice au capitaine qu'il est, ni aux valeurs du Bayern Munich. Et beaucoup des dirigeants munichois sont en train de réagir, et notamment le directeur sportif qui vient de déclarer, Hasan Salihamidžić, qui vient de déclarer que Manuel Neuer avait mis ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club. Pascal Duprat.
Il y a une constante avec le Bayern de Munich, c'est pour ça qu'il est un grand club en Europe, c'est que nul n'est plus fort que l'institution. Beaucoup devraient s'en inspirer. Voilà, c'est la remarque que ça m'inspire. Il a beau être un des joueurs emblématiques, Neuer, il n'est pas au-dessus de l'institution. Et les dirigeants le rappellent sans, chaque fois qu'il y a un problème de ce genre.
Ok, tu le vois, tu défends plutôt les dirigeants donc du oui. Bayern Munich. Non, mais c'est un point de vue très intéressant, et c'est vrai que ça fait référence à d'autres clubs où on est plus prompt peut-être à caresser dans le sens du poil ses stars. Donc c'est une bonne observation. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Banque Populaire qui pourrait revenir sur sa décision après le scandale sur le Vendée Globe. On en parlait hier. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Ok. Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Stephen Brun.
On en a parlé hier.
Oui, non, oui. On s'en fout. Mais on n'avait pas parlé de Nando De Colo en revanche.
Oui, bah c'est pour ça qu'on s'en fout pas.
Ok. Clarisse Kremer peut encore garder espoir de participer au Vendée Globe après avec Banque Populaire en 2024. Sa mise à l'écart en raison de sa maternité ayant provoqué un mauvais buzz, la direction de Banque Populaire travaille pour trouver une solution. Les responsables ont entamé une réflexion pour revenir sur leur décision et proposer à la navigatrice de prolonger son bail avec Banque Populaire. Ça t'inspire quoi, Simon Dutin, toi qui étais déjà...
Ah non, tu me donnes la main, hein. Le De Colo, mon avis, t'intéressait pas, mais là, Clarisse Kremer, c'est moi qui y vais, c'est moi qui me jette à l'eau. Super.
Attends, mais si t'as pas envie d'y aller...
Il y a pas de souci, non, mais bon, j'attends déjà, attendons de voir, effectivement, ce qui va se passer. Bon, c'est quand même le signe que, évidemment, la pression médiatique, globalement, quoi, la boute de neige est devenue énorme. Et voilà, ils sont obligés de réagir. Ils ont sorti l'extincteur. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas été terribles dans leur com, dans leur façon de vendre leurs décisions. Et voilà, je renvoie au podcast de l'émission d'hier pour donner ma position. Mais si on peut trouver un terrain d'entente et arrêter de je sais pas, crier au complot sexiste et je sais pas, jeter l'opprobre sur voilà, je reste persuadé que ce n'est pas la maternité de Clarisse Kremer qui pose un problème au patron de Banque Populaire ou du département sportif de Banque Populaire.
Je rappelle pour tous ceux qui n'étaient pas là hier que Banque Populaire avait décidé d'écarter Clarisse Kremer car la skippeuse de 33 ans n'était pas assurée d'obtenir son ticket pour le prochain Vendée Globe. Les conditions ont changé et en raison de sa maternité, elle n'a pas disputé assez de courses pour tenter de se qualifier pour ce prochain Vendée Globe. Oui, Pascal.
Oui, ben tu viens de l'expliquer. Parce que la genèse de l'histoire, c'est qu'elle risquait de ne pas être qualifiée parce qu'elle avait mis son enfant au monde et qu'elle ne pouvait pas concourir. C'est bien cela?
Exactement.
Bon, ben à partir de là, ils avaient raison de se préoccuper. Donc,
méfie-toi, Pascal, tu vas avoir.
Il
n'y
a pas de sexisme. Non, mais il n'y a pas de sexisme là-dedans. Et après, l'emballage médiatique fait ben, qu'on reprend l'info et puis qu'on rétro-pédale. Voilà. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient dû régler ensemble, c'est-à-dire bon voilà, si tu risques de ne pas être qualifié, comprendre notre position, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont défendu auprès de la navigatrice, mais je pense pas que ça soit sexiste. Je dis pas que c'est bon, ils ont anticipé, mais c'est aussi leur rôle d'anticiper. C'est quand même les bailleurs de fonds.
Ouais, et ils dépensent beaucoup d'argent, évidemment, et c'était déjà des propos tenus hier, notamment par des auditeurs qui nous appelaient pour réagir. En tout cas, toutes les informations sur ce scandale sur le Vendée Globe, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Et évidemment, on en a parlé, on en a fait un débat hier. Donc, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast.
Oui, ouais, j'y sais, je vois bien l'avis de Simon sur Nando de Colo, ça m'intéresse.
C'est vrai?
Oui, moi aussi.
Je réclame sur Nando de Colo.
Je réclame le deuxième zapping, okay. Le comeback du zapping.
Okay. tu as 15 secondes, vas-y.
À la over my dead body, comme disent nos amis. Vous n'aurez pas mon avis sur Nando de Colo. Je vous l'ai proposé tout à l'heure, vous n'en vouliez pas. Je vais le garder dans ma besace. Si,
je tends la main. J'ai envie de l'écouter par
Nando de Colo. Je te tends la main.
C'est pas ma faute. Si je n'étais pas trop de l'émission, je t'aurais donné la main tout de suite.
Non, je m'en fous de Colo, je m'en fous.
C'est dur. Bah Pascal, alors peut-être.
Non, mais non. Moi c'était hier. Je me suis vraiment marré, voilà, au travers des échanges sur le groupe WhatsApp. Et il m'a convaincu. Ce qu'il vient de me dire, ça sert. Il nourrit le débat prochain en disant ce qu'il a dit tout à l'heure, Stephen.
Exactement. Bah la transition sur Nando de Colo, on va peut-être la voir avec LeBron James, car il s'agit aussi d'un record de points. Est-ce un événement planétaire ou un événement américain? C'est le bras de fer des GG dans quelques instants. À tout de suite.